Oh oui, on vient de faire un excellent bloc sur le prix de l'essence avec le dossier de Pascal CV sur le manque d'essence à Beauport et la chronique de Lanny Dufour, nouvelle chroniqueuse politique et économique avec nous. Lanny, qui est directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication. Pascal, il y a des problèmes en circulation.
Oui, je te faisais signe parce que fin de l'accès de la rue Georges Muir vers Laurentienne-Nord, c'est partiellement entravé, il y a une panne. La SQ est sur place, donc on va procéder au remorquage aussi dans les prochaines minutes, mais ça ralentit le secteur.
Donc, une autre bonne raison pour nous écouter, c'est qu'on fait de l'excellente circulation. On parle d'enjeux locaux, on va en parler justement avec le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, dans quelques instants. Vous le savez, pour nous joindre, 418-971-101, mais surtout pour nous écouter. Il y a la radio traditionnelle, mais il y a notre application Boulevard 101 disponible sur App Store, Google Play Store. Votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » ou encore notre web radio au blvd.fm. Pascal, en manchette, que se passe-t-il dans notre grande actualité?
Les deux candidats à la chefferie de la CAQ mettent de la chair autour de l'os parce qu'ils présentent des choses. Aujourd'hui, entre autres, Bernard Drinville veut couper l'aide sociale des demandeurs d'asile. Il veut donc réduire l'attractivité du Québec. C'est vraiment une position qui a prise, en fait, par rapport aux demandeurs d'asile. On veut limiter à 6 mois l'aide sociale, retirer l'accès à la location pour le logement, limiter l'accès aux logements sociaux et limiter l'accès aux CPE et aux garderies subventionnées. De son côté, Christine Fréchette s'en va jouer dans l'ancienne TAL, le terrain de jeu, voire de Bernard Drinville, soit en éducation. Elle arrive avec des changements, entre autres, elle veut faire appel au privé pour construire les écoles, donc les centres de services scolaires qui vont devenir locataires, entre autres parce qu'on veut accélérer la construction, la gestion des infrastructures scolaires et on veut faire appel à des partenaires du secteur privé. Aussi, en louant ces espaces-là, ben, ça va nous permettre d'aller plus vite dans les projets en éducation. On veut une loi aussi pour protéger les services, surtout ceux aux élèves. Donc, on veut déposer un projet de loi qui garantit que le budget sera consacré aux services. Puis, on veut aussi réduire tout ce qui est paperasserie administrative. Et je te peux te parler des sondages, bien sûr, qui ont été fort regardés aujourd'hui. Les libéraux, les péquistes qui chicanent pour vrai dans les intentions de vote suite à un coup de sonde léger. 31% des intentions de vote vont au Parti québécois. De très près, le Parti libéral suit avec 30%. Donc, c'est une montée quand même importante pour le Parti libéral du Québec. C'en est suivi par le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 15%, la Coalition Avenir Québec à 13% et Québec solidaire à 9%. Et Saint-Roch fait encore jaser. Après 25 ans, une institution qui a même rénové ses locaux et tout ça, le Bâti Bazac déménage. On ne ferme pas, mais on ferme pour l'instant. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Et ce pourquoi? Bien, pour aller à Charlebourg.
Exactement. Et pour en parler avec nous, on a justement le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, au bout du fil. Monsieur Cordero, comment allez-vous avec cette nouvelle?
Ah, c'est drôle, en passant, Cordero, c'est mon surnom. C'est Sao Kwan. Je me suis retenu pour pas rire.
Ah, ben il n'y a pas de problème. Rappelez-moi votre nom, je m'excuse, c'est le nom qui m'avait été transmis.
Appelez-moi Sao.
Bon, ben monsieur Sao. Pourquoi cette nouvelle et pourquoi vous déménagez de Saint-Roch?
Ben écoute, je me suis fait bombarder de la même question depuis 7h45 ce matin. Fait que, tu sais, c'est pas une fermeture, c'est juste une évolution. T'sais, le Bâti, ça existe depuis 25 ans. Et, tu sais, on continue. Mais, tu sais, sur une forme plus moderne puis adaptée aux nouvelles habitudes de consommation, je dirais.
Est-ce que c'est parce que Saint-Roch devient de plus en plus difficile avec la cohabitation de tout ce qui est demande sociale, etc., avec d'autres commerces qui ont quitté? Est-ce que ça fait partie des réflexions, le déménagement à Charlebourg?
Non, mais écoute, je pense que chaque commerce a sa réalité. Puis, tu sais, ça reste quand même la dynamique du quartier. Moi, je suis là. Tu sais, mes parents, on la bâtisse depuis 91. OK, tu sais, j'ai vu la transformation de Saint-Roch jusqu'à ce jour. Puis, écoute, c'est juste une réalité. Il faut juste s'adapter à ça. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est une décision qui est purement, genre, stratégique. T'sais, ça fait plusieurs années que, tu sais, j'ai réfléchi à ce modèle-là. Ben, tu sais, comme qui est Bâti Cantine. Mon but, c'est de mieux, comme correspondre à l'évolution de la restauration. Pour moi, c'est pas le quartier qui change mon plan, c'est plus ma vision.
Est-ce que Saint-Roch, que vous connaissez aujourd'hui, s'est dégradé comme il était dans les années 90?
Ben honnêtement, là, tu sais, moi, je me promène sur Saint-Joseph depuis que j'ai 5 ans, OK? Et dans mon temps, c'était beaucoup pire que ça. C'était comme la zone rouge. aujourd'hui, c'est sûr que c'est une autre réalité. Tu as beaucoup de schizophrénie. Je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est tough. Mais il y a toujours des... Tu sais, je regarde les autres. J'ai des collègues restaurateurs, des amis restaurateurs qui, écoute, ça marche super bien. La business va super bien. Tu sais, ça dépend. Je pense que c'est du cas par cas. Puis, tu sais, nous autres, honnêtement, on est vraiment... On a une très bonne santé économique, le bâti, pour vrai. Tu sais, on n'a pas connu de baisse. C'est juste que, comme je dis, c'est une...
Ça a coupé, on vous entend plus. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou c'est de notre côté, mais on n'entend plus du tout. En gros, ce qu'on comprend, c'est que du côté du Bâti-Bassac, on déménage à Charlebourg. On dit que c'est pas nécessairement le contexte du côté de Saint-Roch, mais plutôt une stratégie opérationnelle. Est-ce que Charlebourg est plus intéressante? Est-ce que vous voyez ça, vous, les auditeurs, au 88-971-1021? Une facilité peut-être pour vous d'aller consommer ailleurs que dans Saint-Roch? Est-ce que ça pourrait expliquer la stratégie, en fait, de ce restaurateur-là qui décide de garder la petite cantine pour un bout, mais déménage son institution qui, depuis 25 ans, est bien logée dans Saint-Roch. Peut-être, Jeff, qu'on peut poser la question au 88-971-1021 parce que moi, je l'entends. Il ne dit pas que c'est toute la situation dans Saint-Roch. C'est vraiment une stratégie opérationnelle pour le restaurant. Il était bien implanté, ça roulait. Il y a quand même quelque chose à comprendre de ça puis qui reste mystérieux.
Oui, en effet, on a eu un petit problème technique, malheureusement, là, M. Sao qui n'est plus en ligne. Donc, on va tenter là, de le rejoindre à nouveau. En attendant, cependant, Pascal, on en parlait tout à l'heure dans l'actualité. Il y a des problèmes avec les personnes, les Canadiens, Canadiennes qui sont au Moyen-Orient. On n'est pas capable de les rapatrier. C'est dans l'actualité depuis hier. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement canadien a libéré quelques places sur des vols pour les Canadiens qui sont pris au Moyen-Orient, mais c'est trop peu pour les gens qui sont là-bas. Et pour en parler avec nous, on a la leader du Bloc québécois, Mme Christine Normandin. Mme Normandin, comment allez-vous?
Ça va bien, merci vous-même.
Ça va super bien. Mme Normandin, qu'est-ce que vous feriez, le Bloc québécois, pour rapatrier plus de gens que ce que le gouvernement libéral fait à l'heure actuelle?
Ben déjà, faire n'importe quoi serait plus que ce que le gouvernement libéral fait à l'état actuel et a fait depuis samedi, là, parce que ça fait quand même déjà quelques jours que ça a explosé. Puis c'est pas comme si c'était une surprise non plus, là, le fait que ça se soit embrasé au Moyen-Orient. C'était une poudrière. Il y a personne qui se demandait si ça allait arriver un jour. La question, c'était quand est-ce que ça allait arriver? Puis nous, on reste surpris, là, même avant de parler de la question des rapatriements, de réaliser que, ben, visiblement, il n'y avait pas de plan de contingence, il n'y avait pas de préparation, il n'y a pas d'informations qui ont été données aux Canadiens coincés là-bas qui auraient voulu pouvoir partir par eux-mêmes. Puis je donne des exemples. Il y a des gens qui disaient, ben, moi, je suis prête à essayer de me déplacer par voie terrestre vu que l'espace aérien est fermé, mais je ne sais même pas si c'est sécuritaire. Je ne sais même pas c'est où l'endroit le plus adéquat où je pourrais aller. J'essaie d'avoir l'information et tout ce que je reçois, c'est un courriel où on me répond en anglais plutôt qu'en français en me disant, ben, comptez pas sur le gouvernement du Canada pour un départ assisté ou un rapatriement. Sacrez votre camp le plus rapidement possible d'où vous êtes, mais par vous-même avec vos propres moyens. Donc déjà, en amont, il semble y avoir eu beaucoup de laxisme dans la mise sur pied d'un plan de contingence alors qu'on savait là, que c'était juste une question de temps, quand est-ce que ça allait exploser.
Madame Normandin, je peux-tu vous poser la question? Est-ce que ça semble être un manque de plan ou littéralement on n'est pas capable de répondre à la demande qui semble assez importante au Moyen-Orient, comparativement à ce qu'on peut penser, nous, dans notre petit salon au quotidien? Est-ce que vraiment il manquait un plan ou il semble avoir des allures de manque de plan?
Il semble avoir des allures de manque de plan. Quand on n'est même pas capable d'envoyer un courriel dans la bonne langue, ben là, c'est difficile de blâmer autre chose que son manque de préparation.
Surprenez-moi, le Parti libéral du Canada envoie des communications uniquement en anglais?
Je fais un petit aparté, là, mais les députés, quand on reçoit des alertes, par exemple, pour un incendie ou quelque part, il a fallu qu'on fasse une demande parce que l'envoi en anglais se faisait souvent une dizaine de minutes avant l'envoi en français. Bon, c'est pas grave, on va laisser les francophones brûler. Donc, est-ce que ce manque de préparation-là me surprend? Pas vraiment dans les faits, malheureusement. Et si ça avait été mieux préparé, ben peut-être qu'il y a des citoyens qui auraient pu déjà avoir quitté par eux-mêmes, mais qui ont attendu parce qu'il n'y avait pas l'information. Fait que là, on ajoute au nombre qui pourraient potentiellement, si ça empire, avoir besoin d'assistance beaucoup plus concrète, beaucoup plus solide. C'est un gros nombre, là. On est au-dessus de 100 000 personnes, là, selon les dernières informations, qui se sont inscrites sur le site d'Affaires mondiales pour s'identifier comme étant à l'étranger. Donc, il semble y avoir un manque de préparation, peut-être un manque de préparation aussi au niveau des effectifs qu'on peut réorganiser à l'interne chez Affaires mondiales pour se concentrer sur une crise quand elle survient. Peut-être les points de communication avec d'autres pays aussi pour savoir est-ce qu'on peut utiliser votre espace aérien, qui est votre point de contact, des associations, des collaborations avec d'autres pays aussi, là, comme la France, par exemple, qui semblait avoir déjà plus d'effectifs sur le terrain pour permettre des rapatriements. Ça, c'est peut-être un des problèmes du Canada. Ils ont moins d'effectifs sur le terrain. C'est plus difficile. Mais est-ce que des collaborations auraient pu être faites? Une priorisation aussi. Qui est prioritaire à sortir dans ce contexte-là? On n'a pas vraiment l'information. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'un citoyen canadien qui est pris à l'étranger présentement n'a pas l'impression qu'il y a de plan, n'a pas l'impression qu'il peut compter sur son gouvernement. Si au moins il y avait un minimum qui avait été mis en place, on le saurait et on n'a pas cette impression-là. C'est d'ailleurs la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas de plan ou est-ce que c'est parce que le plan n'a pas bien fonctionné ou quoi que ce soit? On s'en rendrait compte s'il y avait un plan comme c'est le cas pour la France, pour le Royaume-Uni. Et là, les citoyens seraient probablement déjà plus rassurés. Mais là, c'est pas le cas. On reçoit des courriels de gens qui nous disent « Ben oui, ma fille est prise à Dubaï, mon fils est pris à tel endroit, puis on sait pas ce qui se passe. Les vols sont annulés, l'espace aérien est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? » Ben ça aussi, ça ajoute au climat de panique. Là.
Mais il y a quand même un mouvement depuis un bout à ce niveau-là, entre autres des réductions là, de parutions canadiennes. On parle d'ambassades. On a coupé dans les coûts, les regroupements de bureaux, la colocation aussi entre des alliés, la réduction des enveloppes budgétaires pour à l'international, avoir une influence, oui, mais aussi aider nos compatriotes si jamais. Donc, efficacité, coût, restructuration, ça a joué. Est-ce qu'on s'attendait finalement que ça pète au Moyen-Orient? C'est une question, mais quand on lit dans l'actualité qu'il y a des gens qui sont coincés puis un nombre limité de sièges réservés par Ottawa à bord de vols commerciaux, c'est-tu parce que tout ça nous dépasse?
Possiblement, puis vous mettez peut-être un peu le doigt sur le bobo. De façon générale, le Canada a coupé un peu dans les dernières années au niveau de l'aide internationale, de la présence à l'international. Puis on ajoute à ça des coupures annoncées dans certains postes pour les fonctionnaires. Ça peut pas ne pas avoir d'impact. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on se ramasse finalement dans une espèce de tempête parfaite où malgré... Et je mets absolument pas en question la volonté des fonctionnaires. À un moment donné, ils sont juste capables de faire un bout par eux-mêmes, là. Et s'ils sont pas assez nombreux pour faire le travail, on peut pas non plus les blâmer personnellement. Mais est-ce que c'est symptomatique d'un manque de vision à long terme, d'un manque de volonté aussi d'investir dans une présence adéquate à l'international? Ben, je pense que la question, quand on la pose, on y répond indirectement aussi.
Pour rappel, on parle avec Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois. On parle justement de ces Canadiens qui sont prisonniers du Moyen-Orient avec pas de plan de match du côté du gouvernement canadien pour les rapatrier au Canada. Chez Mme Normandin qu'on ne siège pas à la Chambre des communes cette semaine, mais est-ce que vous avez quand même des communications avec le Parti libéral à savoir quand est-ce qu'un fameux plan va être déposé?
Non, on reçoit à peu près les mêmes informations que vous, à savoir par exemple la question des vols commerciaux, quelques sièges qui ont été réservés. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information et ça donne pas une impression de planification adéquate. Ça donne l'impression que le gouvernement sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Dans certains cas, on l'a vu dans le passé, dans des situations d'urgence, les députés étaient rapidement mis dans la boucle, on recevait des communications, et là, on a à peu près rien, ce qui n'est pas nécessairement rassurant pour nous non plus. On ne peut pas passer ce message-là à nos commettants en disant « oui, on a de l'information ». Non, c'est silence radio pour nous aussi du côté d'Affaires mondiales, malheureusement. Donc, c'est visible. Il y a un ballon qui a été échappé sur celle-là, alors que c'était... malgré tout, relativement prévisible que ça allait sauter à un moment donné.
J'ai déjà travaillé pour des entreprises de transport. On a toujours des plans B, des plans C, des plans D, justement, pour quand il arrive des catastrophes comme il arrive présentement au Moyen-Orient. Alors, vous êtes en train de me dire que le gouvernement n'a aucun plan déjà de rédiger d'urgence pour ramener des citoyens au Canada?
Mais s'il y en avait un, il me semble qu'on aurait eu un minimum de détails depuis samedi. Puis vous mentionnez les compagnies de transport, même les municipalités ont ces obligations-là d'avoir des plans de contingence advenant, par exemple, des catastrophes naturelles. Ça aussi, on se doute que ça va arriver un jour. On ne sait pas nécessairement quand, une rivière qui déborde, une tornade, un ouragan, peu importe. Mais là, dans le contexte où on le savait, le Moyen-Orient, c'était juste une question de temps, qu'on n'ait pas déjà de plan A, B, C, D, E, ou visiblement que ça ne transparaisse pas, parce que juste de le laisser transparaître qu'il y a un plan, ce serait en soi rassurant pour les Canadiens. Et là, ça leur donne vraiment l'impression que le gouvernement ne sera pas derrière eux pour les aider quand le premier message que tu reçois, c'est « comptez pas sur nous ». Je me doute que les Français qui sont rapatriés présentement n'ont pas reçu au jour 1 un message dans une autre langue pour leur dire « arrangez-vous tout seul ». Donc, si le gouvernement canadien avait un plan présentement, il est très, très bon pour ne pas le mettre au grand jour et il le cache très, très bien, ce qui me fait plus porter à croire que il n'y en avait tout simplement pas de plan. On a lésiné là-dessus, on n'a pas mis de ressources suffisantes pour être prêtes au moment où ça explose, avoir une switch on-off là, qu'on est capable d'allumer à partir du moment où la poudrière saute, ça donne vraiment l'impression que finalement, là, on a été un peu pris les culottes baissées avec une préparation inadéquate, puis on dit aux Canadiens, mais finalement, arrangez-vous par vous-même parce que nous, on n'est pas en mesure de vous aider ou même tout simplement de vous donner des informations de base si vous souhaitez par vous-même tenter votre chance.
Ouais, ça fait pas vraiment de sens. Ça, c'est un grand laxisme gouvernemental. Je termine cette entrevue, Mme Normandin, leader du Bloc québécois, avec la question, quelle est votre position face au conflit en Iran au Bloc québécois?
Je pense qu'il y a personne que je vais surprendre en disant que on n'était pas les fans numéro un de l'ayatollah Khomeini. C'est un régime dictatorial qui était épouvantable avec la population civile, mais on a été tout autant éberlué par la prise de position rapide du premier ministre Carney et son soutien sans équivoque aux frappes américaines, en dépit du droit international, en dépit même du droit domestique, le Congrès qui n'a pas été consulté là-dessus. Ça nous donne l'impression qu'il y a un changement de paradigme à l'international. Là, la règle de droit sur lequel tient l'ordre mondial, on semble avoir remplacé ça par une espèce de diplomatie des bombes, ce qui nous laisse perplexes, mais qui semble avoir laissé perplexes d'autres gens au sein de l'appareil gouvernemental, notamment la ministre Anand qui a tenté de remettre la patate dans le tube, le premier ministre Carney qui finalement marche sur la peinture, des députés libéraux qui sont sortis ouvertement contre ce soutien automatique du gouvernement canadien aux États-Unis. Donc, c'est la lecture qu'on fait de la situation actuelle. Il n'y a aucune empathie, aucune sympathie pour l'ayatollah Khomeini, mais on aurait souhaité que le droit international soit appliqué adéquatement, parce que la prémisse sur laquelle le droit international se base, c'est de sauver des vies humaines, des vies civiles. Et malheureusement, quand on y déroge, c'est pas nécessairement pour le meilleur.
Christine Normandin, continue votre excellent travail. Continue à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'on rapatrie le plus rapidement possible les Canadiens qui sont pris au Moyen-Orient, parce qu'on parle avec des gens qui sont là-bas depuis le début de la semaine à Boulevard 101, puis les gens vivent un enfer. Les bombes, les missiles leur passent par-dessus la tête. Faut rapatrier ces gens-là au Canada pour qu'ils soient en sécurité.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois. Vous demandez des fois à quoi ça sert une opposition. Bien, c'est entièrement ça. C'est à mettre de la pression sur le gouvernement quand il y a un laxisme. Et là, il y a clairement laxisme. Il n'y a pas de plan d'urgence. Ça n'a pas d'allure. Toute bonne entreprise qui se respecte va avoir des plans d'urgence pour sécuriser ses employés. Dans le cas du gouvernement, ses citoyens.
C'est drôle parce que ça me faisait réfléchir. Puis moi, j'aime bien voyager. J'aime ça à l'extérieur. Puis j'avais fait un genre de plan auparavant. Parce qu'il y a aussi une assurance citoyenne à avoir envers soi-même. Comment est-ce que nous, on sort de la merde dans la vie? Puis c'est une question qu'on aurait pu lui poser. Mais en même temps, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et si ça vous arrive ou si vous êtes dans un pays en ce moment à l'extérieur, ben faut s'inscrire immédiatement auprès d'Affaires mondiales Canada parce qu'ils vont savoir où vous êtes. Ils vont vous contacter en cas d'évacuation. Ils vont envoyer des consignes, bon, précises si ça se peut. Il faut aussi contacter directement l'ambassade ou le consulat, s'il y en a une. Mais pas aussi uniquement attendre le vol gouvernemental. Puis ça, c'est aussi proposé. Contacte ton assurance voyage, ils vont t'aider, mais il faut avoir un plan personnel aussi d'évacuation parce que on se rend compte, là, si la situation devient critique, c'est pas toujours le Canada qui va être capable d'être hyper proactif là, quand on entend qu'il y a des vols, mais en quantité limitée, puis il va falloir choisir qui s'en vient, qui s'en vient pas, c'est une chose. Puis la politique de proximité, tes députés peuvent t'aider aussi. Mm-hmm. Ils sont plus près de toi, ils habitent peut-être dans ton quartier, ou quelqu'un ici au Canada capable d'être en contact avec tes députés, ça aide, si jamais.
Pascal CV, est-ce que la firme McKinsey, ça te dit quelque chose?
Oui.
Ah oui, ça te dit quoi?
Mais on est dans l'actualité avec ça. Moi, ça, par contre, ça me surprend.
Oui, la firme McKinsey, celle qu'on a embauchée à coût de millions de dollars pour gérer la COVID.
Consultation, on est un peu dans se sauver, on est dans la gestion, en fait, d'une crise, oui, c'est mais ça. Des fois sociale, des fois privée.
Mais là, coudonc, cette firme-là, as-tu des passe-droits? Parce qu'elle a reçu en 7 ans 32 millions de contrats chez Hydro-Québec. Juste l'an passé, c'est 3,3 millions de contrats pour réorganiser le travail de 8 000 employés. C'est la question qu'on va poser après cette courte pause dans un instant, Boulevard 102, à l'émission L'En Jase, au président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, Gilles Cazade. C'est drôle, McKinsey ont toujours ces contrats-là, mais c'est toujours des contrats que tu n'as pas besoin de faire d'appel d'offres, là.
Ça t'arrive comme ça.
Tu sais, les petits contrats de même.
Tu sais, si nous, c'était dans notre mémoire, c'est parce qu'on a entendu souvent parler qu'il y avait telle firme qui gérait un gros problème.
Ouais. Fait qu'on parle de cette situation-là avec Gilles Cazade immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102 à l'émission L'En Jase.